gloire au Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternels à sa droite. Le Seigneur est merveilleux. Il ne se lasse jamais de nous bénir, de nous aider. Il veut toujours nous garder près de lui et nous conduire dans le sentier de la vie. Que son nom soit béni éternellement. Nous arrivons à la conclusion, si on peut dire conclusion, il y a toujours des choses à dire, n'est-ce pas? Mais il faut bien conclure ce séminaire. Et nous allons voir un aspect un peu qui fera comme une conclusion concernant donc le discernement spirituel dans les temps de la fin. Et l'aspect que je voudrais apporter est celui-ci, c'est que lorsque nous avons le vrai discernement spirituel, nous engendre en nous des certitudes inébranlables. Quand il y a le vrai discernement spirituel, ce discernement engendre des convictions inébranlables. Amen. Des convictions réelles, profondes. On ne revient pas là-dessus, c'est des choses établies pour toujours. C'est le fruit du discernement, du vrai discernement. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on retire quelques leçons dans l'épître de Paul, dans la première épître de Jean. Et là, nous allons voir que l'apôtre Jean nous parle de certitude. Parce qu'il y a le vrai discernement. Là où il y a le vrai discernement, il y a toujours des convictions, des certitudes. Et j'aimerais vous donner sept certitudes inébranlables que le chrétien doit avoir dans les derniers temps. Sept. On pourrait en donner plus, mais il faut toujours se limiter, n'est-ce pas? Mais sept certitudes inébranlables. Première épître de Jean. Nous avons souvent cette expression dans l'épître de Jean, et vous l'avez peut-être remarqué déjà vous-même. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Plusieurs fois, l'apôtre Jean parle en ces termes. Ça, c'est le fruit du vrai discernement. Amen. Ça, c'est le fruit. Et à plusieurs reprises, donc, en tout cas, cette fois, il parle, nous savons, nous connaissons, nous savons. Des certitudes inébranlables, surtout dans ces temps de la fin. Amen. Il nous faut, le chrétien doit avoir ces certitudes. Sinon, tu seras emporté à tout vent de doctrine. On l'a assez dit pendant ce séminaire. Mais c'est aussi une mise en garde. Il nous faut avoir des certitudes inébranlables si nous ne voulons pas être emportés à tout vent de doctrine. Et personne ici n'est dispensé de cela. Si quelqu'un dit « Oh, moi, je suis au-dessus de tout ça. Bon. » Si tu es au-dessus de tout ça, c'est que tu commences à planer déjà. Tu planes et bientôt tu vas atterrir. Et quand tu atterriras, ça va faire beaucoup mal. Non, nous en avons tous besoin. Nous savons cette certitude. Alors commençons cette liste. Premièrement, au chapitre 1er, premier épître, chapitre 2, et au verset 3. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Si nous gardons ses commandements, par là nous, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Nous savons que nous l'avons connu. Et juste un peu plus loin, au verset 5, c'est un peu la même chose. Donc, par là, donc, mais, verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alors, revenons au verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, la première certitude inébranlable, nous savons que nous l'avons connu, que nous connaissons le Seigneur. Nous le savons, mais comment nous le savons? Quelle est la preuve que nous savons? Il y a un petit « si » avant, vous avez remarqué? Si nous gardons ses commandements. Et un peu plus loin, il est dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Donc, première certitude inébranlable, nous savons que nous l'avons connu. La preuve, c'est que nous gardons ses commandements. Autrement dit, si quelqu'un dit, moi je sais que je le connais, mais qu'il ne garde pas sa parole, est-ce qu'il le connaît? C'est un menteur. D'ailleurs, l'apôtre lui-même, il parle souvent de menteur dans l'épître. Il ne mâche pas ses mots, hein. Il ne mâche pas ses mots. C'est un menteur, celui qui dit qu'il le connaît, qui n'obéit pas à la vérité, c'est un menteur. C'est clair et net. Il ne va pas, oh, vous savez, non, c'est peut-être... Non, non, non. Quand il y a le discernement, les choses sont claires et nettes. Amen. Amen. Quand il y a le vrai discernement, c'est clair et net. Il n'y a pas, oui, mais on ne sait pas, on peut, on va voir, peut-être que lui, moi je vais demander à l'autre, et ceci, cela, peut-être que moi, il n'y a pas de ça. Nous savons que nous l'avons connu. Si quelqu'un dit, je sais que je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, qui n'obéit pas à sa parole, c'est un menteur. Il ne le connaît pas. Donc, si nous voulons le connaître, si... nous voulons avoir cette certitude inébranlable de le connaître. Alors il faut garder sa parole. Amen. Ça c'est la base. Il n'y a pas de discernement spirituel sans l'obéissance à sa parole. La parole de Dieu est la source de tout discernement. Il n'y a aucune autre source de discernement que celle de la parole. Et quand le Saint-Esprit discerne quelque chose, c'est toujours en rapport avec la Bible et pour confirmer la Bible, mais jamais pour nous éloigner de la Bible. Si soi-disant une révélation nous dit une révélation qui est hors de la Bible, ce n'est plus le Saint-Esprit, nous l'avons vu dans notre étude, c'est le séducteur qui nous prend par la main et petit à petit, il nous éloigne du droit chemin. Et on ne s'en rend même pas compte qu'on est sorti du droit chemin. Nous savons que nous l'avons connu. Il faut toujours des preuves. Quelle est la preuve? Parce que je garde ses commandements. Si quelqu'un dit, moi je le connais, et vous savez, il y en a beaucoup qui disent maintenant, je connais le Seigneur, je connais Dieu, je sais ceci, vous êtes d'accord avec moi? Combien? La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons. Fanfarons. Le fanfaron, c'est celui qui prétend des choses qu'il n'est pas. C'est un prétentieux. Il dit, je le connais, mais en vérité, il ne le connaît pas du tout. Il dit qu'il a Dieu, mais son cœur est vide, il n'y a rien dedans, absolument rien. C'est un fanfaron. Et ça, c'est un signe des derniers temps. C'est un signe aussi, la fanfaronnade. Prétendre des choses que nous connaissons, et en vérité, nous ne les connaissons pas. Mais le chrétien, lui, a des certitudes inébranlables. Pourquoi tu peux dire, pourquoi je peux dire, je le connais, ce n'est pas de la prétention, parce que j'obéis à ses commandements. Amen. Et ça, tu le sais dans ton cœur, si tu as pris la décision de lui obéir. Tu le sais. As-tu pris la décision dans ton cœur de garder sa parole? Amen. Pas seulement les paroles qui te plaisent, mais toute la parole de Dieu. Amen. Même les paroles qui nous dérangent. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de dire, j'accepte ça et je refuse ça. Qui es-tu? C'est toi le juge? La Bible n'a pas été écrite pour qu'on la juge. La Bible a été écrite pour qu'elle nous juge. Amen. Ah oui. Mais on a l'impression, quand ils disent la Bible, ils ont été créés pour lire, pour critiquer la Bible. On a l'impression qu'ils ont été créés pour critiquer la Bible. Non, 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 non. La Bible a été écrite pour qu'elle te juge. Nous l'avons connu. Les choses sont sérieuses. Beaucoup de gens disent, moi je connais Dieu, ceci, cela, mais vous savez que ce n'est pas vrai. Et ces gens sont séduits. Et pourquoi nous pouvons dire qu'ils sont séduits? C'est simple. Parce qu'ils ne gardent pas sa parole. Amen. C'est tout simple. Mais veillons donc à ne pas être séduits nous-mêmes, à dire qu'on connaît le Seigneur et dans le fond de notre cœur, on n'est pas décidé à obéir à toute sa parole. où on obéit quand ça nous plaît, si tu obéis à sa parole quand ça te plaît, alors, un jour, tu feras de tristes expériences et tu ouvres la porte à l'ennemi qui pourra te conduire dans des doctrines de démons. Mais si tu es décidé à garder cette parole, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, disait le psalmiste. Amen. Je me réjouis de ta parole comme un précieux butin. Quand vous avez un butin, de l'or, pensez de l'argent, ça brille, et c'est vrai, c'est pas du toc. Et la parole de Dieu, ça doit être comme ça. Ah, c'est la parole même de Dieu, cette fois épurée. Cette fois épurée. Mais qui trouve des choses à redire dans la Bible. C'est pas la Bible qui a des choses à... C'est pas dans la Bible qu'il y a des choses à redire, c'est dans ta petite tête qu'il y a des choses. Dans ta petite tête qu'il y a des choses à redire. C'est pas la Bible, elle est cette fois épurée. Pure. Elle te dérange parce que il y a trop de lumière qui se dégage. Trop de lumière. Et quand tu t'approches, la lumière commence à... On n'aime pas ça. C'est pourquoi certains n'aiment pas la Bible. Parce qu'elle dit des choses qui les dérangent. Mais celui qui aime la vérité n'est pas dérangé par cela. Au contraire, il dit merci, oh mon Dieu, de me montrer ce qui ne va pas. Merci. Je crois, j'accepte, je change. C'est ta parole. Je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Première certitude. Nous l'avons connu. Et la preuve, c'est que nous gardons ses commandements. Et plus que jamais, dans ces temps de la fin, mes amis, c'est cela. Tu dois garder sa parole. Pas la parole d'un homme. Pas la parole d'un orateur. Pas la parole d'un grand théologien. La parole même de Dieu. Amen. C'est elle qui te gardera. Si tu gardes la parole de Dieu te gardera. Lorsque les temps de tribulation arriveront, Dieu te gardera. Je te garderai de l'épreuve qui arrive dans ce monde parce que tu as gardé ma parole. Amen. Alléluia. Nous l'avons connu. Quelle certitude. C'est une profonde certitude. Personne ne peut vous enlever cela. Personne. Le chrétien en a besoin. Sinon, il sera emporté à tout vent de doctrine. Deuxième certitude inébranlable. 1 Jean, chapitre 2, verset 18, maintenant. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, voyez-vous, une deuxième certitude maintenant. Nous savons que c'est la dernière heure. Nous savons. Et quand il y a le verbe connaître ou savoir, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est une réalité profonde, inébranlable. C'est un amen, il en est ainsi, il en sera ainsi. Un antichrist vient. Un antichrist vient, c'est vrai. Et il y a déjà plusieurs antichrists qui viennent. Combien de faux Christ, n'est-ce pas vrai? Et combien de gens, soi-disant, ont aussi des visions de Christ? Un jour, nous étions chez des amis, je crois. Et nous avons regardé une émission religieuse comme ça. Et vous savez qu'il y en avait un qui était là. On l'a interviewé. Et vous savez ce qu'il a sorti, celui-là? Qu'il avait eu 30 visions de Christ. Et à côté de ça, vous savez ce qu'il sortait? Que finalement, toutes les religions étaient bonnes. Alors est-ce que c'est le vrai Christ qui s'est révélé à lui? Vous voyez tout de suite que c'est un faux Christ. Et il est persuadé à lui de sortir ça de sa tête. Vous pouvez plus. Il y a des antichrists qui viennent, qui sont là. C'est extrêmement sérieux. Il y a un peu de partout, il y en a qui se prennent pour le Christ. Dans le monde, je ne vais pas entrer dans les détails, vous êtes aussi informés que moi. Un peu de partout, vous le voyez. Mais c'est des choses qui n'ont jamais existé avant, ça. Vous êtes d'accord avec moi? Jamais à ce niveau-là, jamais. C'est pourquoi nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Et Jésus lui-même nous avertit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et en plus qui feront des miracles. Des faux Christ. Attention, c'est des gens qui parlent de Christ et qui font des miracles. Mais ce seront des miracles mensongers. Par là, nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Voyez-vous, il y a une apparence chrétienne. Mais s'ils sont sortis, c'est qu'ils ne sont plus fidèles à la parole. Amen. Alléluia. À partir du moment où on quitte la parole, nous ouvrons la porte au diable. Et l'ennemi a la porte ouverte pour faire tout ce qu'il veut. Nous vivons ces temps-là, mes amis. Nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Des multitudes d'hommes se targuent d'être le Christ ou ont des visions de Christ. Et celui qui ne connaît pas la parole peut se laisser prendre. Parce que ces gens font des miracles aussi. C'est là la ruse, c'est là la séduction. En général, avec les doctrines étrangères, il y a toujours quelque chose qui va avec. Ce sont des miracles mensongers. Et c'est pour ça que ça trompe. Et où partout il y a des doctrines étrangères, des choses un peu bizarres, il y a aussi ces miracles mensongers. Si nous ne faisons pas attention, si nous suivons les miracles pour les miracles, nous serons séduits. Vous ne devez jamais dire, ah oula, là-bas il y a des miracles, on y va, on fonce la tête en pro, et puis ça vient de Dieu. Tu es sur le chemin de la séduction. Tu dois t'arrêter et réfléchir. Attention, du calme. Qu'est-ce qu'on prêche d'abord? Est-ce qu'on prêche la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, ils s'en allèrent partout dans l'évangile de Marc, n'est-ce pas? Prêchant la parole. Et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous, les miracles suivaient la parole. Maintenant, on suit les miracles, mais on ne suit pas la parole. On suit les miracles, on court derrière les miracles. C'est là la grande séduction. Est-ce qu'on prêche la parole, toute la parole? S'il y a un doute, il faut mettre un doute sur ces miracles. Nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Mes amis, c'est important. Notre cœur doit être attaché à sa parole. Alléluia. Car toute manifestation surnaturelle ne vient pas forcément de Dieu. Là encore, beaucoup de chrétiens doivent se dire, doivent bien réaliser la chose. Ah, il se passe quelque chose. Ah, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Mais ça, c'est bien, mais ça ne veut pas rien dire. Dans les religions, dans les endroits occultes et tout ça, ils voient des choses. Ce n'est pas le test. Le test, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que la doctrine est conforme à la parole de Dieu? Nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Si ces choses sont là, mes amis, le Seigneur est à la porte. Amen. Il est à la porte. On le dit, mais il est à la porte, je vous assure. Veillons et prions. Et surtout, soyons attachés à sa parole. Sa parole. Troisième certitude inébranlable. 1 Jean 3, 14. Oui, 3.14, il est dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Encore un autre passage important. Vous voyez, encore une autre certitude, nous savons. La troisième certitude inébranlable, c'est que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Autrement dit, quand quelqu'un est passé par une authentique conversion, quand la vérité a fait son œuvre en lui, cette œuvre de libération, du salut, car c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand nous avons fait une authentique expérience de conversion en obéissant à la vérité, alors le fruit de cette conversion, c'est ensuite d'aimer ses frères, mais d'aimer ses frères toujours dans la vérité. Jean le dit bien souvent, Gaius, que j'aime dans la vérité. Amen. Aujourd'hui, quand on entend parler d'amour, c'est toujours cet amour sentimental Ou surtout, il ne faut rien dire aux gens. C'est pas vrai? Il faut seulement dire, je t'aime, alléluia. La personne est dans une fausse doctrine, elle est idolâtre. Ça ne fait rien. Oh, si tu savais comme je t'aime, mon frère, ma soeur. La personne est idolâtre, on la laisse. Elle est en train de s'empoisonner, on la laisse. On la bénit et la personne est en train de s'empoisonner. On l'envoie à la mort avec notre bénédiction. On l'envoie à la mort et à la perdition avec notre bénédiction. Non, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que c'est la vérité qui nous a libérés. Amen. C'est la vérité. C'est pas en nous disant, oh je t'aime frère, je t'aime. C'est pas comme ça que vous êtes des nouveaux. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu vous aime, alléluia. C'est comme ça que vous êtes nés de nouveau? Personne ici ne sera né de nouveau. C'est la vérité qui nous a... Amen. Qui nous a convaincus que nous étions pécheurs. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est le premier fruit de l'Esprit. Nous convaincre de péché. Réaliser que nous sommes perdus pour accepter Jésus comme son sauveur. Quelqu'un ne peut pas accepter Jésus comme son sauveur tant qu'il ne réalise pas profondément qu'il est perdu. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des fausses conversions. Ils disent « Jésus est mon sauveur », mais ils n'ont pas réalisé qu'ils sont perdus. Alors voyez-vous, « Jésus est mon sauveur », c'est que des paroles. C'est des paroles en l'air. « Oh, Jésus est mon sauveur, mon sauveur ». Alors, il t'a sauvé de quoi? Comment sauvé de quoi? Je ne suis pas perdu, moi. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est ton sauveur, il t'a sauvé de quoi? Ah ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors voyez-vous, c'est très superficiel. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, comme on l'a vu ce matin, n'est-ce pas? La conversion. Autrefois, j'étais aveugle, maintenant je vois. Autrefois, j'étais esclave du diable, de mes péchés. Maintenant, je suis libre. Je suis enfant de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. La preuve que j'ai fait cette expérience d'une authentique conversion, c'est que maintenant, j'aime les frères, mais dans la vérité. Jamais je leur cache la vérité. Ce que j'ai expérimenté qui m'a libéré, je leur donne. Cette vérité qui m'a transformé, je la communique. Amen. Pas mes idées. Pas mes idées, mais la parole de Dieu. Pas tes expériences, mais la parole de Dieu. Attention, c'est pas tes expériences qui vont libérer les autres, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Et quand nous sommes passés de la mort à la vie, il y a un amour en nous pour dire justement... cette vérité dans l'amour. Et nous l'oublions pas, quand Jean parle d'amour, c'est toujours lié avec la vérité. Gaius, que j'aime dans la vérité. Toujours, c'est amour et vérité vont ensemble. Le véritable amour ne cache jamais la vérité. Le véritable amour proclame la vérité. Amen. Voilà. Quelle certitude. Nous sommes passés de la mort à la vie. Une quatrième certitude, 1 Jean chapitre 3 verset 2, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous savons que nous serons semblables à lui. Alléluia. Voilà une quatrième certitude. Un jour, nous savons que nous serons semblables à lui. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Quelle espérance! Quelle glorieuse espérance! Nous savons que nous serons semblables à lui. Et quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Voyez-vous, nous avons cette espérance et il faut se préparer. Jésus est pur. Le ciel de Dieu est pur et nous devons nous purifier si nous voulons entrer dans la présence même de Dieu. Continuellement marcher dans la lumière. Mais on a une espérance. Mon frère, ma sœur, nous savons que nous serons semblables à lui. Alléluia! Que les épreuves de la vie, que les difficultés de la vie ne nous fassent pas baisser la tête. Au contraire, Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez la tête, car votre délivrance est proche. Alléluia! Il ne dit pas baisser la tête, mais levez la tête! Et tout à coup, le ciel s'ouvrira à un commandement de Dieu, à la voix d'un archange, au son de la trompette. L'armée céleste apparaîtra. Et au milieu d'eux, celui qui est comme le Fils de l'homme. Il descendra du ciel. Les morts ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons emportés aussi. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons pour toujours avec lui. Nous savons que nous serons semblables à lui. Alléluia! Le monde n'a pas cette espérance. Si vous parlez de cela, ils vous taxent de fou. Une folie. Alors vraiment, alors ils vont dire, ah là, ça c'est la preuve que maintenant vous avez vraiment perdu la tête. Alors là, vous êtes classé maintenant. Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que tu dis? Répète encore. Oui, on va voir le Seigneur, il va nous enlever. Oui, alors vite, emmenez-le celui-là. Ah oui, vous pouvez nous emmener où vous voulez. Mais là où nous serons et que le Jésus reviendra, nous entrerons dans le palais du roi. Dans le palais du roi. Nous entrerons dans la présence même de Dieu. Alléluia! Personne ne pourra nous tenir sur cette terre. Ni les hommes, ni les démons. Nous serons semblables à lui. Celui qui a cette espérance purifie comme lui-même est pur. C'est un temps où nous devons justement marcher dans la crainte. La crainte. La purification devant le Seigneur. Il revient bientôt. Quelle espérance. Amen. Amen. Paul disait, ne pleurez pas, ne soyez pas découragés comme le monde qui n'a pas d'espérance. Nous avons une espérance. Et vous savez, je pense à une chose maintenant. Savez-vous que dans certains milieux charismatiques, en tout cas ça a commencé en Amérique, ça commence à venir déjà en France. Vous savez, toujours 10 ans après, ça vient. Via l'Angleterre, ça vient toujours. Les fausses doctrines, c'est comme ça. L'Amérique, ça vient via l'Angleterre, puis ça vient ici. Et vous savez qu'il y en a qui sortent maintenant, qui ne croient pas au retour du Seigneur, à l'enlèvement de l'Église. Certains même considèrent l'enlèvement de l'Église comme une fuite, et ils se moquent de vous. Des gens qui sont du milieu de nous, dans le réveil un peu charismatique, où il y a un peu de tout maintenant, vous le savez. Mais voilà ce qu'on commence à dire, et que nous sommes maintenant dans le millénium, le diable est déjà lié, et que notre responsabilité, c'est de dominer dans le monde. Nous devons régner dans ce monde. Et Jésus ne reviendra pas tant que nous ne dominons pas, tant que nous ne prenons pas les positions d'autorité dans les gouvernements, dans tous les domaines. Ce qui les intéresse, ce n'est pas d'évangéliser, c'est de christianiser le monde. La société, c'est tout. Mais ils ne croient plus à l'enlèvement. Que Jésus va revenir, dites-leur, mais Jésus va revenir, nous cherche. Tu as perdu la tête. C'est non seulement le monde qui se moque de nous, mais les chrétiens, ceux qui croient au Seigneur Jésus et tout ça, eh bien, commencent à s'éloigner de ces vérités capitales. Amen. Et ça vient, ça vient. Peut-être que déjà certains, dans nos pays d'Europe, certains ont déjà mordu à cela. Mes amis, nous le verrons tel qu'il est, il revient bientôt. Si tu ne l'attends pas, parce que la Bible dit, il reviendra pour ceux qui l'attendent. Si tu ne l'attends pas, tu resteras ici. Tu te débrouilleras avec l'Antichrist après. Tu te débrouilleras après avec l'Antichrist. Si tu ne veux pas aller là-haut, moi je veux aller là-haut. Veux-tu aller là-haut? Amen. Alléluia. Amen. Mais apparemment, tout le monde ne veut pas y aller. C'est incroyable. 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 Mais c'est la vérité. Nous devons veiller, mes amis. C'est la vérité. Nous devons prendre garde. Je n'entre pas dans les détails parce que maintenant, je pourrais faire tout un message là-dessus. Puis encore d'autres choses. Une autre fois peut-être. Mais maintenant, faisons bien attention, c'est très important. Nous savons que nous serons semblables à lui. Alléluia. Alors, on en est où? Maintenant, on en est à 6? 5. Oui, il est le cinquième ici. Ah, voilà, le cinquième est là. C'est la cinquième certitude. 1 Jean 5,13. Encore une belle certitude, inébranlable, inébranlable. Ça, vous pouvez pas. C'est bétonné. C'est boulonné, c'est bétonné. C'est scellé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore? 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous... Aïe, 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 la certitude. Que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Maintenant, nous savons que nous avons la vie éternelle. Voilà une certitude inébranlable. Mes amis, as-tu cette certitude? C'est celle que Dieu veut te donner. Dieu donne ses certitudes à ses enfants. Il ne la donne pas au monde. Le monde n'a pas de certitude. Le monde n'a que des illusions. L'illusion de l'âge d'or. l'illusion d'un millénium où on peut, voilà, faire toutes les choses sans le Seigneur. L'illusion. Les convictions. Alors, nous, quelles convictions ici? Je vous ai écrit ces choses. Voyez-vous, Jean dit. Alors, je vous ai écrit ces choses. C'est pas pour rien que je vous écris. C'est pas pour rien. C'est pourquoi? Afin que vous sachiez. Qu'est-ce que tu dois savoir? Que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Amen.
Amen.
C'est lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, après nous être repentis de nos péchés, que Jésus vient en nous. Et en venant en nous, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Et nous devenons ses enfants. Alléluia! La vie éternelle est en nous, l'Esprit de Dieu est en nous! Et dans le nouvel âge, qu'est-ce qu'on vous dit surtout? Que Dieu est déjà en vous, tu n'as pas besoin de te convertir. Même le bouddhiste, il a le Dieu en lui. Les autres religions, l'hindou et tout, n'importe qui, vous avez Dieu en vous. Il faut simplement le découvrir. Et pour le découvrir, tu dois t'asseoir ici, faire de la méditation transcendantale, réfléchir pendant des heures, te vider complètement, pour que les démons rentrent bien, pour qu'ils soient bien tassés en toi, et pour que tu aies enfin l'illusion que Dieu est en toi, alors que finalement, ce sont des démons qui sont en toi. Ils ne s'en rendent pas compte. Quelle tragédie! Pourquoi ils sont si sûrs que c'est Dieu? Comme ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne savent pas que c'est les démons. Que le diable se déguise en ange de lumière. Allez leur enlever ça de la tête. Vous ne pouvez pas. Ils sont sûrs. Parce qu'ils ont. Vous savez, ils expérimentent des choses aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Ils font des expériences. Il ne faut pas croire que c'est que des théories. Il y a des expériences. Mais comme ils ne connaissent pas la Bible, ils pensent que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils machinent là, comme ça, ça vient de Dieu et que c'est Dieu. Il se trompe. Ce n'est pas Dieu. Nous le savons. C'est le diable et c'est les démons. Mais nous avons cette certitude. Nous savons que nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru au nom du Fils de Dieu. Alléluia! Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia! Nous le savons. Nous avons la vie éternelle. Il vient habiter en nous seulement lorsque nous nous repentons et que nous l'acceptons dans notre vie. Mais Jésus, soi-disant, Dieu n'est pas dans la vie de tout le monde. Même des inconvertis, ou soi-disant Dieu habite en eux et qui doivent le découvrir. Quelle illusion, quel mensonge, quelle séduction. La vie éternelle nous est donnée seulement par Jésus. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus. Pas de vie éternelle. Il n'y a que mort éternelle en dehors de Jésus. Mort éternelle. Le sais-tu? Le savons-nous? Disons-le autour de nous. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Alléluia. C'est la certitude d'être sauvé maintenant. Les gens religieux n'ont pas de certitude. Quand on leur dit, oh, tu sais que je suis sauvé par la grâce de Dieu. Comment? Orgueilleux! Comment peux-tu dire que tu es sauvé? Voyez-vous, ceux qui n'ont qu'une religion, même chrétienne, entre guillemets. Même chrétienne, vous dites que vous êtes sauvé. Comment? On ne peut jamais être sûr d'être sauvé. Ah bon? La Bible dit exactement le contraire. Tu ne connais pas ta Bible, mon ami. Tu connais peut-être ta religion, mais tu ne connais pas ta Bible. La Bible. Ce n'est pas une question d'orgueil d'affirmer que nous avons la vie éternelle. C'est une question simplement d'humilité et d'obéissance à la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je le crois. Amen. Et on nous prend pour des orgueilleux à cause de cela. Vous vous croyez supérieur, vous. Et puis alors certains n'osent plus dire à cause de ça qu'ils sont sauvés. Et puis alléluia, Dieu te bénisse. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont besoin de savoir que nous avons la vie éternelle et que s'ils sont droits devant Dieu et qu'ils se repentent et changent de vie, ils auront aussi la vie éternelle. Mais par le nom du Fils de Dieu. Amen. Alors on arrive au bout. Sixième certitude. Comment? Inébranlable, on a dit? Inébranlable. Six, à la fin, on arrive au bout maintenant de l'épître. J'en ai trouvé un joli aussi, là, au verset 18, 5-18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais, alors là, c'est un verset qui nous semble un peu fort, hein, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est un peu mal traduit, là. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quel beau verset! Amen! Mais la première partie, je crois qu'il faut une toute petite précision. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Alors là, c'est dur, parce que même en tant que chrétien, on arrive de trébucher. Mais là, justement, c'est une mauvaise traduction. La traduction réelle est celle-ci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas volontairement. Vous comprenez la différence? Voilà.
Dans ma traduction, c'est « ne pratique pas le péché ».
Ah, voilà. Ou « ne pratique pas volontairement le péché ». Vous voyez, quand on est maintenant enfant de Dieu, né de Dieu, alors nous ne marchons plus volontairement dans le péché comme avant. Autrefois, le péché était une habitude, maintenant le péché est un accident. Vous voyez la différence? Autrefois, nous courions derrière le péché, et maintenant nous fuyons loin du péché. Alors l'apôtre veut dire ici que si quelqu'un se dit être né de Dieu et qu'il pratique encore le péché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans sa vie, qu'il continue comme avant, c'est un menteur. C'est un menteur. Ah, moi, je suis né de Dieu, alléluia. Et vous observez la vie de cette personne, aucun changement. Le péché est une habitude pour cette personne. Mais tandis que pour le vrai chrétien, celui qui est né de Dieu, la semence pure et sainte de Dieu qui est en lui, a changé sa mentalité, sa conception, même ses désirs. Tout en lui a changé. Et son désir maintenant, c'est de fuir loin du péché. Et quand il pêche, c'est involontaire. Et quand il a péché, il ne reste pas comme ça dans le péché en disant « Oh, c'est rien du tout, tout le monde pêche. » Jamais. Quelqu'un qui parle comme ça, il montre par là qu'il n'est pas vraiment né de Dieu. Quand ça nous arrive de pécher, vous êtes, je pense que vous êtes comme moi, on est malheureux. Vous êtes d'accord? On est malheureux. Oh, Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Pardonne-moi cette mauvaise pensée, cette mauvaise parole, cette mauvaise attitude. J'ai fait quelque chose qui t'a déshonoré. Pardon, Seigneur. Et c'est comme, alors la réponse, c'est si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de tout péché. Voyez-vous, il y a l'action continue du sang de Jésus pour qui purifie ceux qui marchent continuellement dans la lumière. Et qui haïssent leur péché dans leur vie. Amen. Amen. Alors voyez-vous, nous savons que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous ne péchons plus volontairement. Et quand nous le faisons involontairement, nous sommes malheureux. Si tu n'es pas malheureux quand tu as péché, alors c'est une preuve peut-être que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Parce que ne l'oublie pas, le Saint-Esprit qui est en toi est saint. Ce n'est pas un esprit comme ça, où tu peux faire ce que tu veux. C'est un esprit saint. Et quand quelque chose de souillé, de mauvais, est entré en toi ou sort de ta bouche, le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est saint qui est en toi. Il n'approuvera jamais le péché dans ta vie. Il sera attristé. Et c'est normal que tu sois attristé. Si tu ne te sens pas triste après avoir péché, alors tu prouves par là que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ce que Jean voulait dire. Nous savons, on sait, nous savons que quiconque est né de Dieu, il ne pèche pas volontairement. Il vit loin du péché. Et quand il lui arrive de faire une faute, il s'en repent. Il marche dans la lumière. Il ne se justifie pas en disant « Oh, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre », comme la psychologie actuelle, n'est-ce pas vrai? Quand on veut vous aider, voilà ce qu'on vous dit. Si vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes actuellement, ce n'est pas de votre faute. On commence d'abord par la mère, après le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et eh bien ils en ont sur le dos. Hein. C'est toujours la faute des autres. Et vous, rien du tout. Vous êtes un petit ange. Ah oui, si vous êtes un petit ange, pourquoi vous êtes dans ces difficultés-là? Voyez-vous, c'est toujours la faute des autres. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, on est le premier. On se sent d'abord responsable. Les autres peuvent avoir leur tort dans un domaine ou dans un autre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est leur problème. Mais quand je suis concerné, c'est d'abord moi qui dois réaliser où j'ai péché. Celui qui est né de Dieu est droit, il est intègre. Il ne met pas la faute sur les autres. Il reconnaît sa faute. Il demande pardon. Il se purifie et il marche dans la lumière. Nous savons que quiconque est né de Dieu, voilà la certitude de quelqu'un qui est né de Dieu. Voilà comment il vit. Amen. Septième conviction inébranlable. C'est à la fin. Ça finit bien, je trouve. Ça finit très bien. Au verset 20. Nous savons. Ah, j'aime celui-là. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, la septième conviction ou certitude inébranlable, nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, que le Fils de Dieu est venu et qu'il est le Dieu véritable. Soulignez bien cela, c'est très important, qu'il est le Dieu véritable. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Es-tu sûr de cela? Nous savons. Il nous a donné l'intelligence, voyez, le discernement. Le discernement, le vrai discernement. C'est réaliser que Jésus est unique. Il est le Fils de Dieu. Il est parfaitement homme, mais il est parfaitement Dieu aussi. Nous ne pouvons pas comparer Jésus à quelqu'un d'autre. Et tu ne peux même pas mettre quelqu'un... Tu ne peux même pas mettre quelqu'un à côté de Jésus ou en dessous de Jésus. Même en dessous. Jésus est là, mais je peux le mettre dessous, celui-là? Ou celle-là? Non, non, non. Si tu mets quelqu'un à côté de Jésus, ça diminue Jésus, ça déshonore Jésus. Parce qu'il est incomparable. Comment peux-tu comparer Dieu avec les hommes? C'est Dieu qu'on doit adorer. Et aucun homme, ni aucune femme. Maintenant, écoutez-moi bien. Il faut que les choses soient bien claires. Bien souvent, vous savez, il y en a qui disent « Oh, mais moi, je ne suis pas idolâtre. » Quand on leur dit, par exemple, à certaines personnes, concernant Marie, c'est des choses épineuses, mais il faut le dire. Mais si vous priez Marie, vous êtes idolâtre? Ah non! Ah mais non! C'est la mère de Dieu. D'abord, ce n'est pas la mère de Dieu. Encore un autre mensonge. Elle a enfanté Jésus. Amen. Et c'est la seule grâce que Dieu lui a faite. Mais vous priez Marie? C'est de l'idolâtrie. Mais non, c'est sa mère. Donc, non, 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 non. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Qu'est-ce qu'une idole? C'est prier une autre personne que Dieu. Une autre personne que Dieu. Prier une autre personne que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ah oui, mais on ne la vénère pas, on prie seulement et tout ça. Prier, vénérer, faire quoi que ce soit, c'est de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. L'idolâtrie, c'est tout ce qu'on met entre Dieu et nous. Amen. Tout ce que tu mets entre Dieu et toi, c'est de l'idolâtrie. Ah mais je prie seulement, je vénère pas, c'est seulement Jésus. Regardez la séduction. Non, non, non. Si tu pries cette personne, c'est de l'idolâtrie. Jésus seul doit être prié et adoré. C'est lui qui nous conduit au Père. Et personne d'autre. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est ce que là, j'en dis. Gardez-vous des idoles. Mes amis, c'est ça l'idolâtrie. C'est aimer Jésus 100%. Si Jésus est Dieu, c'est à lui seul que nous devons notre adoration. Il est notre créateur. Seul le créateur doit être adoré. Il est notre sauveur. Seul le sauveur doit être adoré. Amen. Amen. Tout le reste est de l'idolâtrie. Et ne l'oubliez pas, ceux qui pratiquent l'idolâtrie n'entreront pas au ciel. Dors ceux qui pratiquent l'idolâtrie, les idolâtres. Vous dites, mais c'est sérieux? Bien sûr que c'est sérieux. C'est très sérieux. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il est le Dieu véritable. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors gardons-nous des idoles. Personne d'autre ne doit avoir de l'influence dans notre vie. Nous ne devons nommer personne d'autre que Jésus seul. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est tout. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous conduit au Père. Tu pries une autre personne qui soi-disant te mène à Jésus? Jamais. Cette personne, d'abord, elle est morte. Et s'il y a une réponse, c'est le démon qui répond. Il ne t'emmène pas à Jésus. Il t'emmène vers un autre Jésus, un faux Jésus. Et ce faux Jésus te mènera à la perdition. Il n'y a que le vrai Jésus qui nous mène au Père. Amen. Mes amis, c'est extrêmement sérieux. Nous savons, le sais-tu? Le sais-tu? C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous dit cela. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il est le véritable. Et quand il est le Dieu véritable, donnons-lui toute notre vie, car il a donné toute sa vie. Il est digne de notre amour. Il a versé son sang. Ce n'est ni Marie, ni ton église, ni un autre homme, ni un gourou, ni qui que ce soit qui a donné sa vie pour toi. C'est le Saint-Fils de Dieu. Et il nous a rachetés pour que nous lui appartenions. Et il a le droit d'avoir 100% de notre cœur. Mais vous dites, moi, c'est 99% pour Jésus et 1% pour Marie ou pour une autre idole. Tu es un idolâtre, Jésus n'entre pas là-dedans. Jésus n'est pas d'accord avec ce marché. Comment, tu me dis? Ah non, non, ah, je me suis trompé. Pour toi, Jésus, c'est 99,99. Et pour l'autre, c'est 0,01. Jésus dit, tu es un idolâtre, je ne marche pas là-dedans. Ou c'est tout, ou c'est rien avec Jésus. Amen. C'est cela la Bible. C'est cela la Bible, parce que c'est la vérité. C'est cela le vrai discernement. Je sais que ça ne peut pas toujours plaire à l'homme naturel, à l'homme religieux surtout. Ça ne plaît pas. C'est pourquoi ce sont les religieux qui ont crucifié le maître. Alors, je veux dire, enfin, qui ont fait le plus de mal à notre maître. Bien sûr, ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Mais je veux dire, les religieux qui se sont le plus opposés à Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas admettre cette réalité-là. Et cependant, c'est la réalité. La seule qui nous sauve et la seule qui nous libère. Alléluia. Amen. Et au ciel, il n'y a que lui que nous contemplerons. L'agneau, et nous voyons le Père et l'agneau qui est sur son trône. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Les autres d'abord ne peuvent pas entendre ta prière parce que les autres sont morts. Ils sont morts. Ils ne peuvent pas entendre ta prière. Ils ne sont pas Dieu, ils sont morts. Donc ils n'entendent pas. Et s'il y a quelque chose qui répond, ce sont les démons qui répondent, c'est tout. La personne est morte. Il n'y a que Dieu qui peut entendre. Et s'il y a quelqu'un qui répond, ce n'est pas Dieu qui répond, c'est le démon. Nous savons. Vous savez, c'est quand nous savons, nous avons des convictions que nous pouvons dire ça. Amen. S'il y avait des doutes en nous, alors on ne serait pas aussi convaincus. Mais nous savons que nous sommes dans le véritable en son Fils. Il est le Dieu véritable. Gardez-vous des idoles. Il faut que Jésus soit tout en nous. Parce qu'il a tout donné. Amen. Ne l'oubliez pas. Pourquoi est-ce qu'il demande tout de nous? Parce qu'il nous a tout donné. Et il ne veut pas d'adultère spirituel. Il ne veut pas d'adultère spirituel. Un dixième, un millième, un cent millième de ta vie à une autre personne, c'est de l'adultère à ses yeux. Si vous êtes marié et puis vous dites à votre femme, écoute chérie, je t'aime, tu sais, si tu savais comme je t'aime. Mais tous les 20 ans, j'irai faire une petite expérience avec une autre. C'est tous les 20 ans. Vous croyez qu'elle serait satisfaite? Dites-moi un petit peu. Elle va vous sauter au cou. Elle va vous sauter au cou. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, alors, 20 ans, je me suis trompé. Tous les 50 ans. 50 ans, c'est long. Elle va dire, 50 ans, je n'en veux pas. Je ne veux rien du tout. Si tu m'aimes, c'est 100% avec moi. Sinon, tu ne m'aimes pas vraiment. N'est-ce pas vrai? Si l'épouse est aussi exigeante, vous ne croyez pas que Dieu est plus exigeant? Pour notre bien, et pour notre bien, pour notre bien, parce que nous avons été créés pour lui et pour lui seul. Si nous faisons autrement, nous serons malheureux nous-mêmes, nous serons des adultères spirituels. Nous nous séduisons nous-mêmes et nous allons devant de grandes difficultés. Bien-aimés, nous savons qu'il est venu, le Fils de Dieu, et qu'il est le véritable. Nous avons l'intelligence, nous avons le discernement, nous avons le véritable, nous sommes dans le véritable. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que ces paroles soient un avertissement, une exhortation pour chacun d'entre nous. Si nous aimons le Seigneur, nous n'aurons pas de peine à le faire. Amen. Nous n'aurons pas, par amour pour lui, rien ne nous arrêtera. Alléluia. Il nous a tant aimés. Est-ce qu'on ne peut pas tout balayer pour se donner entièrement à lui? Il en est digne. Digne à l'agneau. Il est digne de ton amour. Il est digne de ton amour. De tout ton amour. Parce qu'il a tout donné. Si tu savais comme il t'a aimé, il te veut tout à lui, parce que son amour pour toi est pur, total. Il t'aime tant qu'il ne veut pas que tu sois perdu et que ton cœur soit partagé. Il te veut entièrement à lui. Et le ciel sera le ciel parce que nous serons 100% à notre maître, là-haut. Alléluia! Tout pour lui, pour l'éternité. À lui soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.